Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Vous allez entendre des gens qui donc patientent dans des files d'attente et qui attendent depuis le début de la nuit devant les laboratoires à Paris. On patiente dès 4h du matin pour décrocher un test PCR. Les laborantins sont au bord de la rupture. Vous allez voir ça, ou plutôt vous allez l'entendre avec Lucille et la rédaction dans un instant. Les profs aussi n'en peuvent plus, semble-t-il. Ils jonglent tous les jours avec des consignes qui changent en cas de suspicion de Covid-19. Témoignage à suivre. Je vous rappelle que c'est Bernard Kouchner qui a été ministre de la Santé qui sera l'invité politique de la matinale ce matin. Enfin, il prétendait guérir l'autisme avec des antibiotiques. 50 médecins sont dans le viseur des autorités de santé, des charlatans accusés d'abuser de la détresse des parents. Il est 8h01, voici Lucille Bréau.
Radio Classique.
Il faut se lever de très bon matin, comme nous qui travaillons à la radio, pour saisir ces images qui sont incroyables en ce moment dans les rues de Paris. Les gens font désormais la queue en pleine nuit. Ils démarrent à 2, 3, 4 heures du matin dans les laboratoires, d'où devant les laboratoires, ma chère Lucille. Bonjour, pour se faire tester.
Mais oui, les files d'attente s'allongent sur les trottoirs. Des centaines de personnes patientent assis par terre pour bénéficier rapidement d'un test PCR et savoir s'ils ont contracté le Covid-19. Témoignage recueilli au tout petit matin par Augustin Lefebvre dans le centre de la capitale.
J'ai pas dormi la nuit en fait. Je suis venu hier et ils m'ont dit qu'il fallait faire la queue à 4h du matin. Apparemment, si on vient à 7h du matin, ça sert plus à rien, tellement il y a une grande file.
J'ai l'impression d'aller à un concert. Et le résultat est moins marrant quoi. Bon, je me suis levé à 4h, maintenant j'attends, j'ai un bouquin et je patiente.
Moi, je viens pour un cas contact et j'ai un collègue qui est italien qui a eu le même souci et il a déjà eu le temps de faire 2 tests. On comprend pas bien, en fait, c'est quoi l'organisation, la logique.
Voilà, et les résultats mettent parfois une semaine à arriver. Ce matin, les laboratoires et les médecins de ville dénoncent clairement un manque de stratégie, Rémi Pfister.
Ils sont passés de 400 000 à 1 million de tests par semaine en moins de 2 mois. Dans les laboratoires, on manque de réactifs et le personnel est à la limite de la rupture. La faute à une stratégie incompréhensible, selon le médecin biologiste Lionel Baran.
Il vaut mieux avoir une stratégie ciblée en faisant 500 000 tests auprès des personnes qui ont des symptômes ou qui sont contact avec des résultats en 24 heures pour casser les chaînes de transmission, que de faire 1 million de tests juste pour faire du chiffre et d'avoir des résultats en 8 jours, c'est-à-dire quand ça ne sert plus à rien d'avoir un résultat.
Le Premier ministre avait pourtant évoqué une stratégie de priorisation vendredi dernier, mais rien n'a été suivi des faits. Et les secrétaires des laboratoires ne peuvent pas décider seuls qui est prioritaire ou non. Le président des médecins généralistes, Jacques Battistoni, demande le retour de l'ordonnance.
Il paraît plus pertinent d'avoir 2 files, une file de patients qui viennent avec une ordonnance et faire attendre éventuellement les gens qui viennent simplement par convenance personnelle. Les médecins généralistes aimeraient beaucoup avoir un retour d'information sur les pourcentages de tests positifs. C'est en fonction de ces résultats qu'on doit guider une véritable stratégie de test.
Les médecins attendent beaucoup des tests antigéniques rapides. Pour le moment, ils sont à l'étude dans les hôpitaux de Paris pour vérifier leur performance. Même s'ils sont moins sensibles à terme, ils pourraient être utilisés sur une frange de la population moins à risque pour désengorger les laboratoires.
Et puis en dehors des grandes zones qui sont un peu en danger, comme Marseille et l'Aquitaine, les clusters se multiplient, Lucille, dans les universités.
À Montpellier, la fac de médecine a dû suspendre une partie de ses cours. 60 élèves ont été testés positifs après une soirée d'intégration. Pareil à Toulouse pour 127 étudiants ingénieurs de l'Institut National des Sciences Appliquées. Les fermetures de classes aussi se multiplient. Sarah est professeure des écoles à Paris. Il y a quelques jours, elle a annoncé aux parents la fermeture de sa classe après un cas positif. Sauf que maintenant, seul l'élève malade doit rester chez lui.
Sur le site de l'Éducation nationale, je lis le protocole à suivre. Le directeur d'école ou le chef d'établissement informe tous les personnels et toutes les familles de la situation. Il demande au personnel et aux élèves de la liste de rester chez eux par précaution. Et là, clairement, on nous demande de faire autrement. C'est quand même un petit peu démentiel.
Je ne sais absolument pas ce que je vais dire aux parents. Le directeur, il est fou de rage, mais il me dit qu'on n'a pas le choix. Je suis fâchée puisque je comprends que malgré le risque encouru, j'ai pas le choix et je dois aller travailler.
Un témoignage recueilli par Victoire Fort a noté que plus de 2700 personnes sont encore hospitalisées aujourd'hui en France, dont 479 en réanimation. 8000 nouveaux cas ont été, près de 8000, pardon, ont été détectés en 24 heures. 68 nouveaux clusters, des chiffres en hausse qui inquiètent nos voisins. La Pologne, par exemple, a décidé de suspendre ses vols avec la France pour 2 semaines.
Et puis le Brésil, lui, devient un terrain d'expérimentation géant pour les vaccins. Alors ça paraît à peine invraisemblable. Ça paraît invraisemblable, pardonnez-moi, parce que normalement, le processus de vaccin, c'est une homologation très longue contre le Covid-19.
Et oui, 4 laboratoires y testent leur prototype sur l'homme. 22 000 volontaires participent à ces essais cliniques, des soignants pour la plupart. Alors, pourquoi ce pays est-il aussi prisé des labos? Marc Tédé a posé la question au virologue Jean-François Saluzzo, auteur de la saga des vaccins.
Le nombre de cas au Brésil est l'un des plus élevés au monde. Les études ne peuvent être faites que dans des pays où le virus circule activement. Donc le Brésil répond parfaitement à ces critères. Et le deuxième point, c'est que les Brésiliens ont une longue expérience de production des vaccins. Ils ont des laboratoires industriels, notamment l'Institut Fiocruz, qui a certainement signé avec les partenaires industriels des contrats de transfert de technologie. Et je pense que le vaccin sera en partie produit au Brésil. C'est un moyen de s'approvisionner dans des conditions très favorables.
Aux États-Unis, Donald Trump affirme, lui, qu'un vaccin pourrait être disponible à la fin du mois. Les États-Unis, où l'ouragan Sally de catégorie 2 commence à faire des ravages dans le sud-est avec ses vents à 140 km/h. Les habitants de l'Alabama, du Mississippi et de la Louisiane sont appelés à la plus grande prudence. Le Japon, lui, a un nouveau Premier ministre ce matin. Il s'appelle Yoshihide Suga. Il vient d'être élu par le Parlement pour succéder à Shinzo Abe, contraint de démissionner pour raison de santé.
Et puis, Lucille Bréau, nous le donnions dans les titres, une cinquantaine de médecins sont dans le viseur de l'Agence du médicament. Pourquoi ?
Soupçonnés d'avoir prescrit, tenez-vous bien, des antibiotiques à des enfants autistes afin d'essayer de les guérir, alors qu'il n'existe évidemment pas de traitement contre la maladie. La NSM vient de saisir le procureur de la République des charlatans qui exploitent bien souvent la détresse des parents, Rémi Vallès.
C'était en 2012. Estelle, maman d'Alan, se rend chez un médecin qui lui promet des miracles avec des antibiotiques, une cure sur 2 mois aux lourds effets secondaires pour son enfant atteint d'autisme.
Déjà, il avait la diarrhée constamment, il était complètement crevé et en fait, il n'était pas en mesure de dire qu'il avait mal à tel ou tel endroit. Ça ne faisait que décupler ses troubles du comportement. Donc non seulement, en fait, ça n'a rien résolu, mais ça n'a fait qu'empirer la situation et vraiment, c'est devenu invivable.
Les cas de parents démunis comme Estelle, Suzanne ne les compte plus. Maman d'un fils autiste de 26 ans, elle traque les charlatans sur Internet en s'infiltrant dans des groupes qui relaient ses traitements alternatifs.
C'est des compléments alimentaires, des tests, des consultations hors de prix, des prises en charge non reconnues. Il y a parmi ces gens des personnes qui n'ont pas beaucoup les moyens et qui se lancent dedans quand même.
Pour SOS Autisme, c'est toute une nébuleuse qui profite du désarroi des parents et de l'impasse thérapeutique. Olivia Catan, présidente de l'association.
Des naturopathes, des nutritoxicologues, des fondations de nutrition. Pour peut-être rallier certains médecins ou en tout cas leur demander des comptes et puis surtout faire arrêter ces essais.
Au total, 5000 enfants autistes auraient été traités par ces médecins bonimenteurs depuis 2012.
Le reportage de Rémi Vallès. Valérie Giscard d'Estaing, lui, va mieux. Il se sent bien malgré une légère infection au poumon qui n'est pas liée heureusement au Covid-19. C'est son cabinet qu'il précise. Il est toujours hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Et puis Emmanuel Macron, lui, est attendu sur le Tour de France aujourd'hui pour une 17e étape alpine entre Grenoble et le col de la Lauze à Méribel. Une montée finale qui promet quand même l'enfer aux grimpeurs. 21 km, Guillaume, à 7%.
C'est pas pour moi.
C'est pas pour moi non plus. Primoz Roglic est toujours en jaune.
Voilà une précision de notre consoeur Béatrice Houchard. Jacques Chirac en 1998 sur le Tour de France à cause de l'affaire Festina. Eh bien, il y était. C'est à Bitti que le directeur du Tour lui apprend l'exclusion de Virenque le lendemain. Il suit la course avec Bernadette dans la voiture de Jean-Marie Leblanc et le vainqueur de l'étape, Jan Ullrich, lui offre un maillot jaune. La fête est gâchée, mais Chirac est là et condamne le dopage. Et le soir, quand il rentre dans son château à Bitti, il apprend qu'on a retrouvé Éric Tabarly mort. Ce fut une journée évidemment très compliquée pour le sport français. 8h09, cette précision méritait d'être donnée. Merci Béatrice. Nous avons rendez-vous avec Bernard Kouchner qui est déjà présent, vous l'avez entendu, et avec Guillaume Tabar qui est beaucoup plus discret. Mais ça ne saurait tarder.